RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, le numérique est entré dans nos vies à une vitesse vertigineuse. Plus de la moitié de la population mondiale possède désormais un smartphone. Selon le dernier Digital Report, 5 milliards de personnes utilisent Internet quotidiennement et 4,5 milliards sont actifs sur les réseaux sociaux. Vous êtes sûrement nombreux à nous écouter et à en faire partie. Véritable prolongement de nos vies, nos téléphones, nos tablettes et où nos ordinateurs dictent notre quotidien, photos, musique, finances, travail, itinéraire, nous ne pouvons plus nous en passer. Et ce n'est qu'un début, car avec la révolution que représente l'AI, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble de nos activités qui va être concerné. Les capacités de ce nouveau cerveau technologique capable de synthétiser beaucoup de facteurs simultanément sont immenses. Nos consommations d'énergie, nos modes de transport, nos choix agricoles et alimentaires, la production industriels sont en train d'être bouleversés par ce nouvel outil, mais est-ce pour le meilleur ou pour le pire? Est-ce que déléguer à des machines des fonctions jusqu'ici réservées aux humains est une bonne idée? Et surtout, est-ce compatible avec l'urgence climatique et écologique? C'est de tout cela dont nous allons parler avec nos invités. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose de nous projeter en 2040. Sophie et sa fille vivent dans un immeuble dans une banlieue d'une ville française.
Pour une mère de famille, cela peut sembler un peu tard de se réveiller à 8h30, mais c'est son AI compagnon, Nestor, qui lui a proposé d'organiser sa vie et celle de sa fille Magali, afin que l'une et l'autre puissent aller travailler et aller à l'école en évitant l'heure de pointe. C'est ainsi que ça se passe chez les Aigrins. Les cycles de sommeil de la mère comme ceux de la fille semblaient y être plus adaptés et dans la mesure où tout paraissait plus simple ainsi, cela n'a pas été l'objet d'une longue réflexion. L'AI compagnon avait simplement ouvert les rideaux électriques peu à peu dès 8h10. Dès son lever, l'AI compagnon de Sophie lui rappelle qu'elle a un reste de fromage blanc dans le réfrigérateur. Celui-ci est équipé de caméras chargées de veiller à ce que rien ne soit gâché. Ce qui permet à l'AI compagnon de commander ce qui pourrait compléter des aliments périssables pour faire un repas complet, qu'il faudrait consommer rapidement avant qu'il ne soit périmé. Il lui conseille une recette inattendue, où elle peut mettre des morceaux de deux oranges qui lui restent, également en limite de péremption, avec un petit peu de miel et quelques céréales. Préparation, 2 minutes. Sophie boit un café originaire de Côte d'Ivoire. Certes, c'est issu de l'agriculture intensive, mais avec une empreinte environnementale très faible du fait d'une culture agroforestière à fort rendement et d'un transport par bateau. Sur le plan des déchets générés, elle est à zéro, car la caméra de son AI compagnon, située au-dessus des poubelles, l'a vu mettre les pelures d'orange dans le bac à déchets biologiques, après l'avoir aidé vocalement à choisir le bon bac pour le filet en plastique des oranges, et qu'en matière de consommation d'eau, elle est proche de 40 litres. Il est temps de partir. L'AI compagnon leur dit que si elles descendent l'escalier dans les 30 secondes à venir, elles seront exactement à l'heure pour attraper l'AI minibus autonome qui va les amener l'une à l'école, l'autre au travail. Lorsqu'elles montent à bord, elles retrouvent quelques voisins qui ont chacun pu bénéficier d'un service porte-à-porte et qui seront également chacun déposés tout au plus à quelques dizaines de mètres de là où ils se rendent. D'ailleurs, en grande banlieue, le trafic n'est désormais plus composé que de ce type de bus de petite taille. Assez grand pour prendre 6 à 8 personnes et assez petit pour délivrer à chacune un service personnalisé en un temps optimal. Cela fait bien longtemps que les bouchons ont disparu, dans la mesure où les AI minibus ont systématiquement la priorité sur les rares voitures individuelles. Mais ce matin, juste après que Magali était descendue pour rejoindre son école, à peine l'aïminibus était-il reparti qu'il s'était retrouvé pris dans un bouchon. Une conduite hydraulique avait explosé dans la rue principale, noyée dans 50 cm d'eau. Sans beaucoup attendre, l'aïminibus fit demi-tour et emprunta un chemin secondaire. Sophie réalisa que cela risquait de lui faire rater son train, dans la mesure où chaque matin, elle n'arrivait en général que 2 à 3 minutes avant que celui-ci ne passe. Elle commençait tout juste à s'inquiéter lorsqu'une voix sortant du plafond de l'aïminibus indiqua « Pour Sophie et Abdel qui prennent le train de 9h24, pas d'inquiétude, j'ai négocié qu'ils nous attendent 2 minutes en gare et nous arriverons à temps pour que vous puissiez le prendre. » Ouf !
Bonjour Gilles Babinet.
Bonjour.
Vous l'avez reconnu, hein, nous venons d'entendre un extrait d'un chapitre de vos derniers livres, Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat, chez Odile Jacob, lu par Caroline Fillette, que je remercie au passage. Alors vous avez créé de nombreuses entreprises à succès dans le domaine des nouvelles technologies, vous êtes professeur à HEC et vous co-présidez le Conseil français du numérique. Et en face de vous, Lorraine de Montenay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes experte des impacts environnementaux du numérique, membre de l'association Green IT et co-auteur d'une étude sur les impacts environnementaux du numérique en Europe. Alors Gilles Babinet, est-ce que le quotidien de Sophie que nous venons d'entendre et que vous décrivez donc dans votre livre en 2040 est vraiment un scénario plausible ?
Oui, enfin je pense. D'ailleurs, j'ai volontairement reculé à cette date en 2040 en me disant comme ça la plausibilité sera encore plus importante. En fait, tout ce qui est décrit, ce sont des technologies qui sont à peu près disponibles aujourd'hui. Et ça reste assez difficile de les mettre ensemble, de faire en sorte que ça fonctionne et de les mettre à grande échelle. Et on le voit bien, qu'on n'a pas encore des machines qui nous parlent systématiquement dès qu'on fait quelque chose. Mais je pense que les gains d'efficacité, de notre vie de tous les jours seront-elles avec ces outils-là que, à mon sens, ils vont se généraliser. Pas d'ailleurs que pour le meilleur, parce que ça peut être extrêmement orwellien, on peut se sentir très contrôlé par les machines.
Alors nous n'avons pas tout mis dans l'extrême, ouais. Et vous dites qu'à un moment, Sophie reçoit une copine
elle dit à son compagnon, je te débranche le truc, terminé.
Tu te tais, voilà, là, je suis avec ma copine, tu parles pas.
Mais l'idée de faire ce petit scénario, c'est quand même de... Plutôt que de parler de choses très théoriques, dans ce livre, ce que je fais quand même beaucoup, c'est vraiment de montrer concrètement ce qui peut se passer et surtout de montrer que ça modifie tout. Pourquoi est-ce que la fille de Sophie, elle peut aller à l'école à 10h30? Parce qu'il n'y a pas cette question ici. Normalement, on va à l'école à 8h ou à 8h30. Mais en fait, parce que si vous êtes capable de finalement avoir des machines qui synchronisent tout, on peut très bien imaginer qu'il y a une classe qui commence à 10h30. Et qu'en fait, ça n'a pas de complexité supplémentaire parce qu'on a synchronisé des tas de parents, des tas d'élèves, des tas de profs et qu'on a réussi à le faire.
Alors nous allons évidemment détailler tout cela dans cette émission. Lorraine de Montenay, que pensez-vous de ce scénario de 2040 ?
Alors ce scénario, il est assez complexe parce qu'en fait, on voit bien dedans qu'il y a énormément de choses qui ne dépendent pas forcément de l'IA d'ailleurs, qui sont mises ensemble. Je pense par exemple à une multitude de petits objets connectés en fait qui doivent rendre possible le fait de savoir à quel moment une personne se déplace, à quel moment on va mettre tel déchet dans la poubelle. Il va falloir qu'il y ait une caméra pour pouvoir identifier quels sont le type de déchets, des capteurs. Et en fait, moi, ce que je vois en écoutant ce scénario, c'est tous les petits détails qui sont les petits objets numériques du quotidien, que ce soit des objets connectés, que ce soit des écrans, des capteurs, etc. Tout ce qui va faire en fait que ce scénario serait possible. Et derrière moi, ce qui se dessine quand j'entends ça, c'est de voir mais en fait, quels vont être les impacts environnementaux par rapport à tous ces objets. Parce qu'il va falloir les fabriquer, ces équipements. Ensuite, une fois qu'ils sont fabriqués, il faut les mettre en phase d'utilisation. Donc la plupart de ces objets sont connectés 24 heures sur 24. Ça a énormément d'impact lors de la phase d'utilisation aussi. On sait aujourd'hui qu'il y a plus d'impact sur la phase de fabrication que sur la phase d'utilisation pour la plupart des équipements. Sur les objets connectés, c'est un peu différent. Pour l'instant, il y a plus d'impact sur la phase d'utilisation que sur la phase de fabrication. Mais en fait, il faut avoir en tête que ces équipements, en fait, ils ont une durée de vie qui est très limitée pour la plupart. Ils vont rester... un téléphone, on va avoir 2 ans de durée de vie. Un ordinateur, 3-4 ans, etc. Les objets connectés, c'est encore difficile de savoir objet connecté par objet connecté quelle va être leur durée de vie. Mais tous ces équipements, du coup, en fait, ils sont amenés à être renouvelés très fréquemment. Donc, plus on a d'équipements, plus ils sont à durée de vie courte, plus ça veut dire qu'il va falloir les renouveler, donc encore plus d'équipements. Et donc, si on en met vraiment partout, là, on a un problème en termes d'impact environnemental parce que c'est une fabrication qui est gigantesque en termes de coûts, en termes de matière à extraire. Et c'est un impact qui est énorme aussi lors de la fabrication, de l'utilisation.
Gilles Babinet, dans votre livre, vous expliquez que tous les secteurs sont concernés.
Oui, parce que c'est une des grandes technologies, je pense, du 21e siècle. C'est probablement une technologie qui aura un impact à moyen terme équivalent à l'électricité. Donc c'est vraiment considérable. C'est une technologie systémique. Elle concerne absolument tout. Et c'est d'ailleurs ce que je montre dans ce livre. C'est que ça concerne la façon dont on produit l'énergie, dont on l'utilise, les systèmes de transport, la façon dont on vit, dont on se déplace, dont on travaille, etc., etc. Donc oui, tous les systèmes sont concernés.
Alors combien de nouveaux équipements justement seront déployés avec l'intelligence artificielle? Est-ce une aide précieuse ou une catastrophe face aux urgences climatiques et écologiques? Nous en parlons dans un instant avec nos invités, mais d'abord place aux frères Timal et à leur titre T-Paradis sur RFI.
Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Les frères Timal et leur titre T-Paradis que vous pouvez retrouver, comme beaucoup d'autres, dans la playlist de RFI disponible sur vos plateformes préférées.
Et vous écoutez C'est pas du vent sur RFI avec Anne-Cécile. C'est moi l'intelligence artificielle qui compose et chante cette mélodie. Et ça tombe bien, car aujourd'hui nous parlons d'IA et donc de moi avec Lorraine de Montenay et Gilles Babinet.
Ça vous plaît, Gilles Babinet, ce petit jingle?
Ah ouais, je me suis amusé à en faire pas mal aussi, je dois vous dire. Avec quelques copains, on a bien rigolé.
Mais oui, c'est tentant, hein. C'est-à-dire ouais, qu'il suffit de rentrer un petit texte, on choisit la musique et hop.
Après, pour être franc, c'est pas ce qu'on réécoute le plus. Hein.
Non. Voilà. Non, non, mais là, c'était évidemment pour le clin d'œil. Bientôt, c'est une intelligence artificielle qui fera cette émission, finalement.
Ouais, je pensais pas bientôt, à mon avis, parce que en réalité, il y a plein d'articles qui sont écrits avec de l'IA. Franchement, moi, j'ai l'impression de lire. J'ai pas d'élèves de troisième, mais j'ai un peu l'impression de lire le truc super bateau. C'est un peu décevant pour l'instant, quoi.
Bon, en attendant, je vais continuer à faire mon métier. Lorraine de Montenay, est-ce qu'il y a des études sérieuses qui évaluent l'impact du numérique sur l'environnement, en gros, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2024?
Sur l'IA spécifiquement, c'est très compliqué d'avoir des études qui permettent d'avoir une vue d'ensemble du sujet. On a des études qui sont précises sur, pour un modèle donné, dans le cas où il donne ces informations librement, quels vont être les impacts liés à la phase d'utilisation en termes de gaz à effet de serre. Mais par rapport à ce qu'on a comme information à l'échelle du numérique dans les études qu'on réalise aujourd'hui, c'est une toute petite portion de l'impact parce que ce qui manque comme information, ça va être toutes les informations liées aux différentes phases d'utilisation. Donc avoir une vue d'ensemble de la phase d'utilisation et une vue d'ensemble de la phase de fabrication déjà au démarrage. Hein. Quand on parle en analyse du cycle de vie, ça veut dire qu'on va regarder tous les impacts qui aient lieu depuis le début de la fabrication des équipements jusqu'à leur fin de vie.
Donc, et c'est d'ailleurs ça aujourd'hui l'essentiel de l'impact, c'est la fabrication des outils.
C'est ça, c'est-à-dire que le numérique, on a tendance à penser que c'est quelque chose de très virtuel, mais en fait, sans écran, vous n'avez pas accès au numérique. Et derrière l'écran, il y a un ordinateur qui réfléchit. Et derrière cet ordinateur qui réfléchit, vous allez avoir du réseau, donc un certain nombre de câbles, de routeurs, etc. Et derrière ces câbles, vous allez avoir des centres de données. Et donc en fait, c'est toute cette ingénierie, ces équipements qui s'accumulent les uns avec les autres, qui s'additionnent et se complètent, qui font le numérique. Et donc ça, très matériellement, ça a un impact. Ça a un impact à la fabrication parce qu'on va devoir extraire des métaux dans des conditions qui sont souvent affreuses pour les personnes qui les extraient hein, d'ailleurs, et qui ont aussi des impacts énormes sur l'environnement. Donc on va extraire ces métaux. Ensuite, on va devoir les raffiner, faire en sorte qu'ils soient dans un degré de pureté suffisant pour pouvoir fabriquer des équipements électroniques. Hein. Donc on parle d'un degré de pureté de 99,9%. Voilà. Et ensuite, il va falloir transporter les équipements une fois qu'ils seront assemblés pour qu'ils aillent jusqu'à leur utilisateur. Puis ensuite, là, on va arriver à la phase d'utilisation. Donc là, on branche son équipement pour le recharger ou pour qu'il soit en réseau. Et donc ça va durer un certain nombre d'années. Souvent, c'est assez court hein, par rapport au coût environnemental qui a lieu à la fabrication. Et derrière, il va y avoir ce qu'on va appeler la fin de vie. Alors sur la fin de vie, c'est un mot qui veut dire que en fait, l'équipement, on l'a sur le dos aussi une fois que c'est un cadavre de l'équipement.
Recycler.
Alors une partie de l'équipement peut être recyclée. On ne sait pas recycler 100% des équipements aujourd'hui et 100% des composants qui sont dedans. Quand il y a des alliages extrêmement complexes dans un tout petit équipement, l'alliage, on ne va pas réussir à reséparer les éléments. Et donc, si l'équipement ne peut pas être recyclé, il y a des déchets qui vont rester. Et puis, ces déchets, s'ils finissent dans une décharge ou dans la mer, ils vont finir par faire des problèmes en termes de métaux lourds. Donc, on a énormément d'impacts liés à ces pollutions. À la phase de fabrication, à la phase de fin de vie et à la phase d'utilisation, c'est surtout l'impact en termes d'énergie consommée, donc le mix électrique. Et puis pour les data centers, parfois ça va être aussi une question de mix pas électrique, mais avec des générateurs au fioul par exemple.
Alors Gilles Babinet, la 7e édition de Choose France, qui est le sommet créé par Emmanuel Macron en 2018 pour stimuler les investissements étrangers, a eu lieu en début de semaine. Et Microsoft a annoncé qu'ils allaient investir 4 milliards d'euros pour bâtir justement de nouveaux data centers dédiés à l'intelligence artificielle. Donc le déploiement de l'intelligence artificielle va augmenter les besoins de matériaux et d'énergie?
Oui, effectivement, on ne peut pas nier que... Il y a une utilisation d'équipements qui est assez intense, en particulier de la part de l'intelligence artificielle. C'est des nouvelles formes d'équipements. Ceci étant, la vérité, c'est que si on imagine un monde sans information et qu'on veut vivre comme on vit aujourd'hui, on peut rajouter une ou deux planètes. Parce que finalement, l'information, ça nous permet d'avoir des chaînes logistiques qui fonctionnent convenablement.
Alors, c'est ce que vous démontrez dans votre livre, secteur par secteur.
Voilà, exactement. Et donc, c'est la question, c'est de savoir finalement où est-ce qu'on a un numérique qui a une utilisation, moi, ce que j'appelle consumériste, et où est-ce qu'on l'utilise vraiment pour avoir de l'efficacité en plus. Je pense que jusqu'à présent, l'environnement, c'était un service gratuit. Et donc tout le monde s'est servi gratuitement, et on a pollué les rivières, et on a fait des mines infectes, entre guillemets, etc., etc. Maintenant, le monde est en train de muter, et je pense que ces technologies, elles ont une capacité de faire en sorte qu'on utilise mieux nos ressources, qui est très importante. Si je vous dis qu'une voiture, ça utilise 7% du temps, qu'en moyenne, il y a 1,3 passagers sur 5 places, ça, c'est la moyenne occidentale là-dessus, que 83% de l'espace public est dédié au transport automobile. Vous vous dites, mais attends, il y a peut-être un truc qu'on peut un peu modifier là-dessus. Et je peux vous faire la même démonstration pour les supply chains, pour la façon dont on vit, chaînes logistiques, pour
etc. Si on s'arrête un peu sur les différents domaines, vous dites dans le domaine du transport, vous en parliez, donc c'est quand même un quart des émissions mondiales de gaz, enfin humaines de gaz à effet de serre. Vous dites, grâce à l'intelligence artificielle, on va peut-être pouvoir développer des véhicules autonomes. Et on gagnera en efficience, alors c'est la vie de Sophie hein, dont on entendait parler tout à l'heure, mais en efficience de déplacement, et on limitera justement l'impact du transport.
Oui, toute la première partie de mon livre vise à confronter ce qu'on appelle les technosolutionnistes et les décroissants. Essayer de comprendre ce que veulent dire l'un et l'autre. Les technosolutionnistes, leur biais, à mon sens, c'est qu'ils disent... Je ne veux pas qu'on touche à mon mode de vie et je ne veux pas changer mes usages. Et on l'entend très bien dans la vie de Sophie, vous n'êtes plus propriétaire de votre voiture. Et vous avez une voiture qui, certes, est blindée d'électronique. Cette électronique a un impact incontestable sur l'environnement. Mais en même temps, qui, plutôt que de servir une ou deux personnes, va...
Ça devient un outil collectif.
C'est ça. Mmh. Elle va, au lieu de servir une fois pour aller d'un point A à un point B, elle va servir sans cesse, toute la journée. En général, et donc quand on fait des simulations, alors ce travail a été fait par un laboratoire du Caltech associé à Google il y a maintenant 3-4 ans, c'est assez impressionnant de voir à quel point on peut avoir des voitures qui font, dans une vie normale, plutôt que de faire 150 000 km, elles vont faire 2 millions de kilomètres ou 3 millions de kilomètres. Donc c'est une autre histoire, c'est vraiment une autre façon de vivre, une autre façon de faire. Et ça n'arrivera pas tout seul. Ça n'arrivera que si on fait évoluer les usages, si le cadre réglementaire il pousse également. Et finalement, si on fait muter ce numérique qui, aujourd'hui, je pense, un peu absurde, vers quelque chose de très différent.
Alors, vous dites aussi que l'intelligence artificielle peut permettre d'accroître ce qu'on appelle les taux d'usage pour éviter de fabriquer des équipements qui servent peu ou pas. Alors, vous prenez l'exemple, par exemple, du transport par camion, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de transport par bateau, aussi par camion, et donc on peut davantage peut-être optimiser ce transport.
En fait, j'ai pris le transport par camion parce qu'il a un avantage, c'est qu'on a des données historiques dessus. Et on voit qu'entre 2000 et je crois 2016, le taux de charge des camions a substantiellement augmenté.
En plus fait, 12% selon la Commission européenne.
Voilà, exactement. Alors je ne me souvenais plus que c'était 12%, merci de me le rappeler. Mais si vous réfléchissez, qu'est-ce qui a bien pu faire ça? En fait, les gens ne sont pas tout d'un coup devenus plus efficaces pour charger des camions. Donc la différence entre 2000 et 2015, je crois, c'est le fait que vous avez des systèmes d'information qui sont apparus et qui ont permis de mieux synchroniser, notamment d'éviter les retours à vide. Vous envoyez un camion à Marseille, bon, mais s'il revient vide, c'est dommage, quoi. Et ça n'existe plus parce que vous avez des bourses, des places électroniques où les camions vont et disent, tiens, là, j'ai un chargement et je vais le prendre pour remonter. Au début, c'était vrai uniquement pour la longue distance, et maintenant, ça commence à être vrai pour la proximité. Et c'est vraiment très intéressant de voir qu'on a des taux de charge qui ne cessent pas de monter. Et maintenant qu'on met de l'intelligence artificielle, on arrive à modéliser des trajets beaucoup plus complexes, avec de la charge, de la décharge, de la charge, de la décharge. Donc des choses qui sont vraiment plus efficaces.
Et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Idem pour la collecte et surtout le tri des déchets. Vous donnez l'exemple de la ville de Gloucester en Angleterre, qui a des robots qui arrivent à trier jusqu'à 200 tonnes de déchets par heure. Le chiffre, j'avoue, m'a énormément impressionné.
Oui. Alors les trieuses, c'est très à la mode actuellement. On en parle beaucoup parce que c'est effectivement incroyablement efficace par rapport aux humains. Alors moi, j'ai vu des trieuses dans les centres de tri. Vous ne voyez pas ce que fait la machine. Ça va tellement vite que c'est même pas que ça va plus vite qu'un humain, c'est que vous ne voyez pas ce qu'elle fait et sa capacité de traitement est très importante. Maintenant, ce que je dis dans le même chapitre, c'est que l'enjeu, c'est pas de trier, c'est de modifier complètement de faire un cycle de supply chain aval qui soit réversible, c'est-à-dire de faire en sorte que vous arrêtiez de mettre à la poubelle tous les trucs que vous consommez.
De développer ce qu'on appelle l'économie circulaire.
Voilà.
Mais les déchets des uns deviennent les ressources pour les autres.
Donc ça pose des enjeux énormes, c'est-à-dire où vous pouvez plus faire autant de créativité dans les emballages que vous le faisiez auparavant, parce que sinon on ne sait pas gérer ça. Il faut avoir des emballages qui sont standardisés. C'est la direction qu'on prend objectivement. Et puis vous avez des trieuses qui sont capables vraiment quasiment empiler les emballages de, je sais pas, de yaourt ou je ne sais quoi. Alors pour le moment c'est assez théorique, mais c'est une perspective assez intéressante parce que pour le coup vous arrivez à complètement neutraliser l'impact de l'emballage dans la chaîne aval. Et il n'y a rien qui techniquement l'empêche. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on mette des poids externes, des poids de... Comment dire ? Il faut qu'on dise, bah, y a un coût, et ce coût va permettre de payer cette chaîne logistique. Et ce n'est pas gratuit de faire des pots de yaourt, parce que c'est très polluant. Et
donc, mais c'est ce qui existe déjà, avec quand même cette problématique de, à partir du moment où on se dit que c'est recyclé, en fait, on continue à consommer.
Oui, c'est ce qu'on vous raconte.
Du recyclage des plastiques sont un peu décevants.
Alors, on vous raconte qu'on recycle vert, par exemple. Vert, c'est le plus consensuel, à la limite. Mais en réalité, si vous voyez, d'abord, c'est très énergivore. Il faut beaucoup d'énergie pour refondre le vert, alors qu'objectivement, une bouteille en verre, ça peut être réutilisé directement là-dessus. Et on vous raconte qu'on recycle le papier. Pareil, ça utilise des quantités de chlore très importantes, des quantités de produits chimiques. Et donc, il faut complètement repenser le cycle. Il faut penser ce cycle comme si on disait, ben, il faut le concevoir à partir du début pour ne pas le mettre à la poubelle. Et lorsque vous commencez à faire ça, vous vous rendez compte que, d'une part, c'est possible, mais que si vous voulez bien le faire, en évitant d'avoir recours à des quantités de travail manufacturier, c'est-à-dire de gens... très important, vous avez
avec
besoin...
Avec des travaux très pénibles, voilà. L'intelligence artificielle, là, peut jouer un rôle important.
D'une part pour trier, mais aussi parce qu'une fois que vous avez une supply chain réversible, c'est-à-dire ça descend jusqu'à chez les gens, et puis ça remonte, et que cette supply chain, elle doit être synchronisée, si vous n'avez pas des modèles d'intelligence artificielle, c'est impossible à faire.
Lorraine de Montenay, comment est-ce que vous réagissez à ce tableau ?
Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que finalement, l'intelligence artificielle, elle peut intervenir à des moments très spécifiques, sur lesquels on la mobilise avec déjà beaucoup d'intelligence humaine. C'est-à-dire que ce que disait Gilles Babinet à l'instant, de dire, par exemple, de redévelopper la consigne, ce genre de choses, d'avoir une vue d'ensemble de la chaîne logistique sur qu'est-ce qui sera le plus efficace, etc. Et puis prendre des décisions.
Ce qui, humainement, est un peu complexe à faire. Donc c'est vrai qu'en mettant l'intelligence artificielle là-dedans, on peut avoir des gains très intéressants.
Bah, en fait, déjà, à partir du moment, même sans intelligence artificielle, à partir du moment où vous avez des données qui vous permettent de dire combien d'équipements on recycle, combien d'équipements on collecte, combien d'équipements vont être reconditionnés. Et donc pas recycler parce qu'ils vont avoir une autre vie avant ça même. Dès lors qu'on a cette vue d'ensemble, déjà, on peut se poser une question déjà beaucoup plus large. Dans l'éco-conception, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va aller chercher cette vue d'ensemble très large pour dire bah, quel est le degré le plus macro qu'on peut prendre pour pouvoir réduire les impacts. Là, on va pouvoir vraiment être très disruptif dans l'approche et dire bon, bah, là, on va casser les impacts à la source parce qu'on va se rendre compte que là, il y a telle masse qui est importante et qu'on va pouvoir réduire en changeant complètement d'approche. Et en fait, ça, c'est de l'intelligence humaine, hein, déjà de base pour pouvoir faire ça. Ensuite, ce qu'on va pouvoir éventuellement faire, et donc c'est là où éventuellement peut-être qu'il y a des cas d'intelligence artificielle qui peuvent être très efficaces, ça va être sur de l'optimisation. C'est-à-dire de dire, bon bah, on a cette vue d'ensemble, on demande à l'IA, sur la base de cette vue d'ensemble, de prendre tous les paramètres qui vont peut-être au-delà des paramètres humains que nous, on peut prendre en compte, mais qui seraient du coup modélisés par cette IA et sur lesquels elle va pouvoir restituer quel serait le trajet logistique, par exemple, que ferait une bouteille pour qu'il ait le moins d'impact possible. Mais pour ça, ça va demander quand même déjà d'avoir un certain nombre de données, d'informations qui vont remonter, qui vont être mises bout à bout pour pouvoir créer cette information. Là, ce travail de remonter des données, il est en dehors déjà de l'IA parce que c'est tout un travail de collecte qui est une question de transparence aussi hein, de la part des entreprises. Et puis avec les différentes données qu'une IA pourra utiliser pour ressortir une solution éventuelle, en fait, il faut bien faire attention à quelles vont être les sources sources de ces données utilisées. Parce que, en fait, on pourrait très bien aussi occulter ou invisibiliser une partie du sujet. Et puis, il y a des thématiques sur lesquelles ça va être très compliqué de faire ingérer une donnée à l'IA, parce que faire de la captation de ces données va être compliqué. Comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer le degré de biodiversité d'un sol avec une IA ? Ça veut dire qu'il va falloir mettre énormément de capteurs, on ne pourra pas le faire partout tout le temps. Donc il y a des limites aussi à cette captation
de
données.
Mais Gilles Babinet, il n'est pas question de mettre de l'IA partout et de ne plus donner de place aux humains. C'est complémentaire en fait.
Alors d'une part, il n'est pas question effectivement de remplacer les humains. Hein, mais je pense que ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est justement où vous pouvez vous affranchir d'aller chercher les données dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire vous le faites le travail par corrélation. Dans le cas de l'agriculture, bah effectivement, on ne peut pas mettre des capteurs partout dans les champs. Mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, le modèle a suffisamment de données pour itérer et pour supposer qu'un sol qui a tel pH ou qui absorbe l'eau à telle vitesse, il a telle caractéristique racinaire, par exemple. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un autre chapitre de mon livre où je montre ce qui est en train de se passer en matière d'agriculture. On se rend compte que bon, ce qui est les grands ensembles agricoles, le Midwest, etc., c'est très simple, c'est très homogène. Mais le problème,
c'est l'agriculture intensive.
Voilà. Ouais. Le problème, c'est l'agriculture familiale, qui est à chaque fois différente d'un endroit à un autre, etc.
Et qui représente aujourd'hui 80% de l'alimentation humaine.
Exactement. Et bien même là, on commence à avoir des modèles qui apparaissent. Et on n'a pas des fermiers qui ont des capteurs. Donc c'est juste que, à force qu'ils posent des questions sur voilà, ma plante, elle se comporte comme ça, est-ce qu'elle a attrapé une maladie ou je ne sais pas quoi, ben on arrive à développer des modèles qui sont applicables dans beaucoup de cas. Et c'est en train de se développer rapidement.
La production et la consommation d'énergie peuvent aussi être évolutionnées par l'intelligence artificielle jusque dans les villages africains. Nous en parlons dans un instant, mais d'abord un peu de détente avec des humains en chair et en os. Le groupe colombien Sistema Solar et leur titre Artificial sur RFI.
Artificial.
Le groupe colombien Sistema Solar et leur titre Artificial sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale, fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Et nous parlons de l'intelligence artificielle aujourd'hui avec nos invités. Lorraine de Montenay, experte des impacts environnementaux du numérique, membre de l'association Green IT, et Gilles Babinet, co-président du Conseil numérique français et auteur du livre Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat, chez Odile Jacob. Alors, dans le domaine de l'énergie, l'intelligence artificielle peut être très utile jusque dans les villages africains. C'est ce que nous avons constaté lors de la 8e édition du RFI Challenge App, qui a eu lieu fin avril et qui avait pour thème, justement, le numérique au service de l'énergie verte. Le Marocain Mounir Djamaï a fait partie des trois finalistes de ce prix qui récompense chaque année des innovateurs africains dans le domaine du numérique. Il présente son projet Ener Counter au micro d'Igor Strauss.
Ener Counter, c'est une partie compteur, donc matériel. Donc c'est un compteur que nous avons développé qui permet de compter l'énergie, un peu comme vous avez tous à la maison, l'appareil qui va permettre de compter, savoir combien vous devez payer à la fin du mois. Et on a aussi une intelligence artificielle qu'on a développée et qui permet d'apporter ce qu'on appelle des services énergétiques. Et parmi ces services énergétiques, donc on va avoir donc le fait de pouvoir visualiser ces consommations en temps réel, d'une part, mais aussi faire en sorte qu'on ait, comme si vous aviez un ingénieur énergéticien embarqué dans votre installation électrique. Donc, avec la vocation de faire des économies d'énergie, comme on dit, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc, ce Ener Counter permet justement d'alerter sur les consommations anormales et donner des préconisations pour réduire ces consommations d'énergie. La cible principale, c'est dans les villages. Équiper chaque ménage de Ener Counter, et puis équiper aussi la centrale photovoltaïque d'un autre compteur. Et à partir de là, on fait connecter l'ensemble de ces compteurs-là. Et avec notre IA, on s'analyse les flux. Et par exemple, on vient interconnecter par exemple notre Ener Counter avec le système d'irrigation qu'il y a dans le périmètre maraîcher en général, qui est en périphérie du village. Et donc là, ce périmètre maraîcher est équipé d'une autre technologie qu'on a développée, qui est le DakiFarm, d'ailleurs qui était parmi les 10 finalistes du Challenge App l'an dernier. Et c'est un système qui vient irriguer les cultures en fonction des besoins des plantes, connecté à une API météo, donc à la météorologie, et ça permet d'économiser l'eau et d'irriguer les cultures quand on en a besoin.
Gilles Babinet, comment réagissez-vous à cette innovation ?
Non, c'est tout un tas de petits innovateurs qui finalement font petit à petit muter le modèle. Effectivement, les smart meters, comme on les appelle, les compteurs électroniques, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important en Afrique parce que d'abord, il y a beaucoup de fraude et que cette fraude empêche le réseau de se développer parce que finalement, on ne peut pas financer l'opérateur d'électricité sur ce genre de choses. Et puis surtout, on peut avoir des usages raisonnés, c'est-à-dire des gens qui vont utiliser l'électricité au moment où il n'y en a pas besoin. Mais eux, par exemple, pour pouvoir faire remonter l'eau du puits en pleine nuit, à un moment ou plutôt en matinée, à un moment où il y a de l'énergie solaire qui sera gâchée si on ne s'en sert pas, eh bien ça, c'est très, très efficace.
Lorraine de Montenay, qu'est-ce que vous pensez de cette innovation ?
Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait ce genre de petites innovations et de bien penser en fait avant d'enclencher un projet sur ce genre d'innovation. À quoi va servir l'IA exactement ? Quel va être le besoin ? Ce à quoi ça correspond ? Et là, on voit typiquement que dans ce cas d'usage, ça peut permettre de réduire des impacts chez des personnes qui ne feraient de toute façon pas la démarche par elles-mêmes d'aller regarder les consommations si on ne leur propose pas un service qui serait clé en main en fait pour le faire. Là, on voit que à une échelle du coup de nombreuses personnes qui ne se posent pas cette question-là au quotidien, ça peut réduire des impacts très précisément. Ce qui est intéressant du coup, c'est ce genre de cas, de pouvoir, moi je pense que en tout cas réserver l'IA pour ce genre de cas serait sans doute quelque chose qui est vraiment à considérer parce que on ne pourra pas avoir de l'IA partout tout le temps. Hein. Ça consommera beaucoup trop d'énergie et ça aura beaucoup trop d'impact en termes termes de fabrication. Et donc, ce qui est intéressant avec ce genre de cas-là, c'est qu'on voit vraiment un cas très concret et précis. Et un autre point aussi, c'est que dans le cas qu'on voit là, il n'y a pas besoin d'une quantité énorme de données pour pouvoir faire réfléchir l'IA. On lui donne les informations qui sont celles de consommation des utilisateurs et sur une base de connaissances assez simple de qu'est-ce qui a le plus ou moins d'impact, on peut les réduire. Y a des cas où l'IA peut être extrêmement gourmande en quantité de données, et cette consommation excessive de données qui s'appelle le unreasonable effectiveness of data, qui a été un concept que Google a compris dès les années 2010, peut entraîner parfois une surconsommation, où on fait réfléchir, où on forme l'IA de façon trop excessive, et donc pour avoir un degré d'efficacité qui est parfois trop précis, on arrive à une surquantité, une surconsommation de données. Donc là, on voit que dans le cas qui est présent, ça évite ce biais-là, et donc ça peut être un cas effectivement très intéressant d'application.
Et Gilles Babinet, c'est vrai que c'est intéressant aussi cet exemple, parce qu'on a tendance à penser que l'intelligence artificielle ne va bénéficier qu'aux pays dits déjà développés, alors que finalement, il y a tout un pan des pays du Sud qui pourraient en profiter.
Oui, écoutez, je reviens du Maroc où j'ai eu justement ce débat. Et ça reste un débat en réalité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer que ces technologies soient au service du progrès et pas de quelques innovateurs. C'est un peu ce qu'on a assisté d'ailleurs ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'on a vu des très grandes fortunes se faire. Et on peut se poser la question de savoir si les grandes promesses de la fin des années 90, amener l'éducation et la santé à tous grâce à la technologie, ont été remplis. Ce n'est manifestement pas le cas. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on rentre dans un nouveau cycle où les usages et la régulation vont beaucoup plus rentrer dans la danse, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent.
Alors vous écrivez en conclusion de votre livre qu'il semble difficile de vouloir restaurer la biodiversité et d'accorder des moyens considérables aux enjeux climatiques sans qu'une large reconnexion à la nature à l'échelle de l'humanité soit effectuée. Vous pensez vraiment que l'intelligence artificielle va nous aider à cela ?
Vous savez, c'est quelque chose que j'ai un peu écrit par provocation, mais qui est quelque chose de très profond chez moi. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai des souvenirs, il y a deux choses qui sont importantes dans ma vie, enfin qui ont été très importantes. C'est, d'un côté, j'ai toujours adoré la technologie, etc. Mais de l'autre côté, j'ai une profonde connexion à la nature. Et je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas toujours trouvé chez notamment mes contradicteurs. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut être décroissant si on veut protéger la nature. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux notions-là. J'ai un peu la culture des hippies des années 70. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois... ils allaient faire des trips en Inde, ils étaient complètement... ils vivaient dans les villages en Californie.
Vous aussi, vous faites des trips en Inde ?
Peut-être un peu différent des leurs, en tout cas, voilà. Et de l'autre côté, ils développaient de la technologie de façon très, très assidue. Je pense que cette dynamique, elle est possible aujourd'hui. Et surtout, je pense qu'on a aujourd'hui une technologie qui est révolutionnaire, qui nous permet d'avoir des gains de productivité comme on n'en a jamais eu, et qu'on a face à nous une falaise d'investissement à faire pour faire la transition environnementale, et finalement, c'est une assez grosse opportunité. C'est-à-dire que soit on se tape tous dessus parce qu'il faut faire des investissements considérables et qu'on va chercher dans les poches de Pierre ou de Paul pour faire ça, soit finalement, on a de la productivité, ce qui nous permet de, au moins en grande partie, répondre à cet enjeu.
Lorraine de Montenay, vous dites attention, faut pas oublier que l'intelligence artificielle n'est pas hors sol. Il y a des gens derrière le fonctionnement, notamment des petites mains humaines invisibilisées qui affinent son apprentissage. Il y a des besoins en métaux, etc. Donc oui, mais pas partout. Et c'est aux régulateurs finalement de trier. Les régulateurs, c'est l'État en fait.
Oui,
prioriser.
Voilà, c'est l'État, c'est l'Europe, c'est à différents niveaux. En fait, pour moi, il faut qu'on arrive à sortir un petit peu de ce débat entre technosolutionniste et anti-technologie.
Et décroissant.
Voilà, parce que en fait,
là-dessus, vous êtes d'accord.
Voilà, pour moi,
j'ai pas dit que j'étais en désaccord avec Lorraine.
C'est clairement un débat qui en fait empêche le débat de fond. Je vois quand même une problématique importante aussi, c'est que l'IA qui peut servir au bien de l'humanité, c'est aussi un discours. Et il ne faut pas que ce discours soit un prétexte pour blanchir l'utilisation de l'IA partout, tout le temps. Parce que ça, c'est un discours qu'on a déjà entendu, par exemple, sur la 5G, qui aurait soi-disant permis de réaliser des opérations chirurgicales à distance dans les ambulances. Bon, ça, c'est une mythologie marketing. Donc, il faut réussir à faire la part des choses entre quel va être le rêve et quelle est la réalité concrète sur le terrain. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est sortir des fanfaronnades et des débats stériles sur qui aurait une posture extrême ou pas, pour vraiment regarder très pragmatiquement la crise climatique qui nous arrive en face et vraiment là, agir et avoir des solutions tout de suite.
Gilles Babinet, sur le rôle de l'État, la nécessité d'un régulateur, c'est important?
Oui, c'est très important et j'espère qu'on est en train de changer de cycle. C'est-à-dire que depuis 1980, on est dans une phase de dérégulation. Alors, ça a créé plein d'opportunités de business dans tous les sens. Ça a permis à la Chine de probablement sortir 1 milliard de personnes de la pauvreté. Mais ça a aussi plein d'externalités négatives, notamment sur le plan de l'environnement. Donc, on rentre dans un nouveau cycle où, en tout cas, à l'échelle de l'Union européenne, on a passé tout un tas de règlements, la plus connue étant à l'égard de l'environnement, la CSRD, mais il y a aussi le CBAM sur les taxes carbone aux frontières.
Tout de suite, sont des acronymes un peu compliqués.
Voilà, exactement. L'idée, c'est de dire le niveau de jeu change et le seul moyen d'arriver à faire ça, c'est de changer complètement nos comportements, nos usages. Voilà. Et dans ce cadre-là, je pense que l'intelligence artificielle a des rôles importants pour réussir cette transition. Soit on met de la bureaucratie partout, sur la CSRD, c'est assez affolant la complexité que ça... C'est 25 000 pages de texte, quand même.
Oui, alors c'est-à-dire que c'est une obligation de l'Union européenne qui oblige à faire un report, finalement, un détail, rapport de tout ce que l'on fait en défaveur de l'environnement. Voilà. Au même titre qu'un rapport financier, on doit désormais faire un rapport sur l'état de son impact.
Et c'est probablement qu'une première étape. C'est-à-dire la deuxième étape va être de mettre un prix sur ces externalités. Donc, vous polluez la rivière d'à côté, c'est pas gratuit. Voilà. Et il faut que ce prix soit le point d'équilibre où vous dites, en fait, c'est plus facile pour moi de ne pas polluer la rivière que de payer la taxe.
Voilà, donc ça va être un autre sujet à suivre. Peut-être qu'il y aura besoin d'intelligence artificielle aussi pour accompagner les entreprises dans tout cela. Nous arrivons à la fin de cette émission. Alors si vous voulez lire les travaux du collectif des experts de la sobriété numérique, c'est sur greenit.fr. Et je rappelle le titre de votre livre, Gilles Babinet, ça s'appelle Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat. C'est publié chez Odile Jacob. Merci à tous les deux d'être venus dans C'est pas du vent.
Merci beaucoup.
Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Continuez à nous écrire, c'est pas du vent, tout attaché, @rfi.fr. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.